Conférence privée du noviciat par le Père Marie Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 14 janvier 1993.
Il n'y a plus de papier sur l'obéissance, donc tout est conclu. Si jamais il en restait encore, il ne faut pas hésiter de les donner. Bien comprendre ce qu'est l'obéissance et l'esprit d'obéissance dans notre vie. Donc vous voyez, quand on distingue l'esprit d'obéissance et l'obéissance, c'est de voir comment l'Esprit Saint, au-dedans de nous-mêmes, nous donne un esprit de filiation, de fils à l'égard du Père. Et que toute obéissance se rattache au Père. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que l'obéissance joue un rôle très important dans notre vie, puisque c'est par là que nous sommes reliés au Père. Toute obéissance vient du Père. La paternité est au-dessus de l'obéissance. Mais la paternité est source d'obéissance. Et toujours l'union affective et l'union effective. Ce que dit saint Thomas, ce qui est très très important à comprendre. Et l'obéissance permet la réalisation de cette union effective. En comprenant que l'esprit d'obéissance relève directement de la charité. Et de l'espérance, et de la foi. Il y a un lien entre les vertus théologales et le point de vue de l'obéissance, qui est très grand. C'est tout ça, c'est pour ça qu'au point de vue chrétien, l'obéissance prend une telle place, comparativement à l'éthique d'Aristote. C'est très intéressant à ce point de vue-là. Regardez dans l'éthique d'Aristote la place de l'obéissance. Vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Regardez dans l'évangile de Jean comment Jésus est mort dans l'obéissance. Et pour nous, nous devons essayer de vivre de cet esprit de filiation. Cette obéissance, cet esprit d'obéissance va impliquer notre vœu d'obéissance. Et notre vœu d'obéissance, c'est de vouloir que dans notre vie, l'obéissance prenne une place de plus en plus grande. À la différence de quelqu'un qui est marié et qui est dans le monde. À la différence d'un célibataire. À la différence de quelqu'un qui est simplement consacré à Dieu. C'est la vie religieuse qui sert les écrous pour que l'obéissance nous prenne du matin jusqu'au soir et du soir au matin et nous ligote et fasse que nous soyons comme l'enfant Jésus emmailloté. C'est ça l'obéissance. Ça nous prend de toute activité. Alors, le vœu d'obéissance porte sur les autorités. Toujours un. N'oubliez jamais que obéissance dit autorité. Ne dit pas pouvoir, dit autorité. Alors pensez tout de suite au démon qui est un grand pouvoir sans aucune autorité. Et c'est pour ça que vous ne devez pas de l'obéissance au démon. Et quand vous confondez sincérité et vérité, hein, vous donnez une petite caresse au démon. Parce que le démon s'amuse là-dessus. Il nous fait glisser. On est sincère. Ben, je suis sincère, je suis conforme à ma conscience. Ma conscience me demande de faire ça. Et l'autorité religieuse me demande autre chose. Je suis ma conscience. C'est l'erreur religieuse pouvait être uniquement la docilité à l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, toutes les philosophies luthériennes nous conduisent à ça. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les attaques de Luther par rapport à l'Église qui sont sept fois plus aujourd'hui que du temps de Luther. Parce que beaucoup plus subtiles. On doit obéir à l'autorité religieuse parce qu'elle objective notre désir d'obéir à l'Esprit Saint. Vous ne pouvez jamais être sûr, vous. Hein. C'est l'Esprit Saint qui me demande ça. Oh, est-ce que vous en êtes sûr? C'est ma conscience. Oui, mais votre conscience, c'est peut-être vos a priori. Votre conscience, elle s'éduque. Et vous pouvez avoir une conscience erronée. Alors, vous mettez sur le dos du Saint-Esprit vos erreurs. Ce qui est très ennuyeux pour le Saint-Esprit. Alors, l'avantage de l'obéissance religieuse, c'est qu'elle est objective. L'avantage des constitutions, c'est que c'est objectif. C'est reconnu par l'Église. Vous savez, on le sent très fort, ça, pour une petite congrégation religieuse qui commence. La période où l'Église dit, oui, très bien, allez-y. Ad experimentum. L'Église, on va voir comment vous marchez. Ad experimentum. Et puis quand l'Église accepte, alors là, on a une certitude profonde, objective. C'est bien ce que l'Esprit Saint veut. Et c'est très différent. Jusque-là, on essaie de faire le mieux possible. Et on supplie l'Esprit Saint de ne pas faire de bêtises. L'obéissance religieuse objective la chose. C'est ça la grandeur de l'obéissance religieuse. Alors, il y a une autorité reconnue par l'Église. C'est reconnu par l'Église. Ce n'est pas du tout en raison des qualités, de l'expérience de celui qui exerce l'autorité. C'est en raison du mandat de l'Église. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'autrement, on est très d'accord avec tel supérieur. Et puis ça change. On n'est plus du tout d'accord avec le suivant. Et alors à ce moment-là commence une petite crise. Vous êtes très très net. C'est pour ça que réfléchissez-y au noviciat. Vous êtes à un moment de grâce où vous devez réfléchir sur ce que représente pour vous concrètement le vœu d'obéissance. Et n'hésitez pas de demander. S'il y a des difficultés objectives, vous pouvez très bien les poser à ce petit coup, même après. Il y a l'esprit d'obéissance, il y a l'esprit de pauvreté. Alors, l'esprit de pauvreté, on en a déjà parlé à propos de l'éthique chrétienne, si vous vous souvenez. Alors, considérant que l'esprit de pauvreté est le caractère très particulier et premier d'une éthique chrétienne. L'éthique chrétienne assume l'esprit de pauvreté. Et vous voyez, l'esprit de, on pourrait dire aussi l'obéissance, c'est sûr. Mais peut-être la pauvreté, c'est plus manifeste encore. C'est la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est que l'Ancien Testament ne proclame pas l'esprit de pauvreté. Et la nouvelle alliance proclame. Et Luther n'aime pas tellement l'esprit de pauvreté. que l'esprit de pauvreté soit maintenu dans l'Église. L'Église a voulu qu'il y ait un vœu de pauvreté. Et les vœux, c'est pour être des gardiens de l'esprit. Parce que l'esprit, sans les vœux, il manque l'incarnation. Et c'est pour ça que l'Église maintient la vie religieuse. La vie religieuse est périmée aujourd'hui, au XXe siècle. C'est vrai, les psychologues auraient la tentation de dire ça. Ah, consacrez-vous à Dieu, c'est très très bien, consacrez-vous à Dieu. Ça, ils sont tous d'accord là-dessus. Ils sont tous d'accord pour l'esprit. Ah, très très bien, consacrez-vous à Dieu selon l'esprit d'obéissance au Saint-Esprit. Selon l'esprit de pauvreté au Saint-Esprit. Viens, Père des pauvres. Selon l'esprit de virginité, très très bien. Mais surtout pas la vie religieuse. C'est beaucoup trop dangereux. Parce que vous allez vous ligoter les mains et les pieds à la fantasia de vos supérieurs. Alors, vous aurez des supérieurs très intelligents, très bien, très bien. Mais le suivant... Et c'est toute votre vie. C'est de la folie. C'est de la folie. Pour un psychologue, c'est de la folie, la vie religieuse. Il a raison de le dire. C'est de la folie. Vu ce que c'est que la psychologie, je suis tout à fait d'accord que c'est de la folie. Pas besoin de vouloir justifier. C'est de la folie. Puisque vous faites des vœux, quelquefois, à 22 ans, pour toute votre vie. À 30 ans, pour toute votre vie. C'était pour un an, ça irait encore. Mais dans 20 ans, qu'est-ce que vous serez? Qu'est-ce que vous serez dans 20 ans? Non. Et puis, le milieu social dans lequel vous vivez, qu'est-ce qui sera dans 20 ans? Psychologiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ça que j'aime dans les vœux. C'est justement, c'est que ça ne tient que par Dieu. C'est que ça ne tient que par Dieu. Je vous ai déjà raconté ça. C'était à Fribourg, tout à fait au début de la communauté Saint-Jean, ad experimentum. Alors, un ecclésiastique important m'a dit, Père Philippe, est-ce que vous avez, et presque me dire une banque du Saint-Esprit par derrière vous, est-ce que vous avez une fortune personnelle pour commencer une famille religieuse, surtout aujourd'hui? Je dis, j'ai rien, puisque je suis religieux. Est-ce que mes parents ont donné, c'était pour les Dominicains, c'était aux Dominicains. Au contraire, bien, je peux leur réclamer ça. Ça a servi à la fondation du Cameroun. Très bien, j'en suis très heureux. Alors il me dit, mais c'est de la folie. Je dis, oui, je sais bien que c'est de la folie. Il faut de temps en temps être fou. Pour le Seigneur, c'est de la folie. Je dis, oui, je sais que c'est de la folie. J'ai ajouté, vous comprenez, si c'est de Dieu, Dieu sera là. Si c'est pas de Dieu, comme il n'y a pas d'argent, ça se finira très vite. On ira tous en prison. Après tout, c'est peut-être le moyen de faire un couvent dans la prison. Être sûr d'être 20 dans la même prison. Alors on se réunirait pour chanter, mais comme pour chanter l'office. Mais la prison n'aurait jamais entendu ça. Pour avoir une messe, pour avoir des rencontres fraternelles, pour dire les crimes qu'on a faits. la dernière guerre. Je faisais des conférences à Saint-Jacques sur la pauvreté et la miséricorde. Quelqu'un m'a rejoint à la fin de la conférence, m'a dit, mais mon père, avec les assurances sociales, on n'aura plus besoin de miséricorde et de pauvreté. Tout le monde sera assuré. Il y aura toujours des pauvres volontaires. Oh non, quand même. Je dis, mais oui, vous verrez, il y aura toujours des pauvres volontaires. Elle était absurde qu'avec les assurances sociales, il n'y aura plus de pauvreté. Et la pauvreté volontaire continue d'exister au-delà des assurances sociales qui augmentent et qui rendent plus difficile encore la pauvreté plutôt que de la supprimer. Elle exige qu'on ait encore plus d'esprit de pauvreté. Et c'est vrai. C'est très important de comprendre que la vie religieuse, pour un point de vue purement humain, psychologique, qui regarde le conditionnement humain, c'est de la folie. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est de la folie. C'est pour ça que, de temps en temps, on vous regarde drôlement. C'était la réflexion d'une sœur apostolique qui venait de prendre la vie et qui était obligée de retourner à Paris. Elle dit, mais c'est tout drôle, je suis retourné à Paris et tout le monde me regarde. C'est pas étonnant, vous êtes jeune et vous avez un habit religieux, ça se fait plus. C'est une bête curieuse. On vous regarde, elle me dit, c'est très gênant d'être regardé comme ça. Je comprends que c'est très gênant, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très gênant, on s'y fait, je dis. Comment les frères de Saint-Jean doivent comprendre doit avoir un ordinateur. Problème concret, très concret. Est-ce que chaque religieux doit avoir une bibliothèque? Et livres, ça coûte cher. Est-ce que chaque religieux doit avoir son auto? Concrètement, du temps de Saint-Dominique, il y avait l'âne comme bien commun. L'âne a donné beaucoup de petits. Ils ont toutes les autos. Alors, et l'esprit de pauvreté s'incarnant dans les biens. Il faut y réfléchir au noviciat. C'est important. Et quand vous avez une lumière du Saint-Esprit, notez-la et vous communiquez ça au Père Maître, vous communiquez ça au prieur, vous communiquez ça au prieur général. Pour être sûr qu'il y en ait moins un qui écoute. C'est plus sûr que vous, dans les choses humaines, comme ça, on doit faire ça. C'est Saint Benoît qui dit ça, qu'on doit écouter les novices. Saint Benoît dans sa règle dit ça, pour le Père Abbé. Écouter les novices, parce que les novices, de temps en temps, on ne doit pas suivre, les écouter. Parce que de temps en temps, les novices, sous le souffle de l'Esprit Saint, découvrent quelque chose que jusque-là, on n'avait pas pensé. Et c'est vrai, ça. Comment vivre aujourd'hui de la pauvreté la plus... Vous voyez, il ne s'agit pas de critiquer. C'est très difficile, l'application. C'est très difficile. Et voir une application concrète. Parce que facilement, voyons, on continue. Vous voyez, dans certains carmels, on continue de manger toujours avec des cuillères en bois. Très bien, ça coûte peut-être plus cher que ce qu'on donne aujourd'hui. Avoir une vie simple et pauvre qui ne choque personne si on l'invite au réfectoire, si on l'invite à loger au couvent, une hôtellerie pauvre mais correcte. Ne pas construire, parce que ça s'était fait, je me souviens, foyer de charité, qui ont trouvé, foyer de charité de Châteauneuf, on a beaucoup discuté là-dessus. Et le père Finet disait toujours, on construit pour l'an 2000. C'est pas juste au point de vue pauvreté, parce que le pauvre ne peut pas construire pour l'an 2000. Il n'y a que les gens très riches qui peuvent construire pour l'an 2000. On ne construit pas pour l'an 2000. On construit pour l'année prochaine. On construit pour 5, 6 ans, 10 ans. Surtout aujourd'hui. On ne peut pas. Il faut avoir des fonds. Il faut avoir une banque derrière. Et on n'a pas envie. Heureusement, du reste. On a décidé de ne pas avoir d'œuvre pour rester pauvre. Cela ne veut pas dire que on n'aide pas les. Non, parce qu'il y a des œuvres dans la congrégation. Saint-Jean Éducation. Bel voisin. L'école Saint-Jean. L'école Saint-Jean est la seule œuvre acceptée et reconnue. Un peu bel voisin. Peut-être qu'un jour Belvoisin sera accepté comme une œuvre de la congrégation. C'est ça, ça ne m'étonnerait pas du tout que le Saint-Esprit nous le demande. Pour avoir les deux extrêmes de la pauvreté. L'école Saint-Jean, c'est pour pallier à la pauvreté intellectuelle. Donc il faut une école qui recherche la vérité. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la médecine, dans le domaine politique, même peut-être dans le domaine l'économie pour l'économie, mais chercher la vérité dans un mets-là, ce qui n'est pas commode, pas du tout. C'est pas un équilibre, c'est la vérité. Bon, l'école Saint-Jean et puis l'autre pauvreté, la pauvreté de ceux qui ont été drogués. Là, c'est bien que la vie apostolique s'occupe des deux grandes pauvretés. C'est le cœur de Marie, ça. Marie est blessée par un manque de recherche de vérité. Marie est blessée par les pauvres toxicaux. S'installe comme ça un petit esprit bourgeois. Parce que l'esprit de pauvreté, ça s'alimente constamment. Et ça s'alimente tous les jours par un choix. On ne choisit jamais ce qui est le luxe. On choisit toujours ce qui est le plus utile dans l'ordre de l'utilité. Il ne faut pas, sous prétexte de pauvreté, quelquefois acheter des choses qui ne tiennent pas. Pour les autos, par exemple, c'est très bien. Quelquefois, on prend des... à cause des autos usées, des choses qu'on ne voit pas. Et alors, les accidents sont possibles. L'autre jour, ça m'est arrivé. Partant de Rimont, le lendemain, il y avait un pneu qui était complètement... Le lendemain, celui qui me conduisait a oublié de regarder. Il n'a pas fait attention. On s'est mis à déraper. Oh, et c'était à 1h, il y avait beaucoup de monde. On a fait un tête à queue. On s'est retrouvé de l'autre côté. La Sainte Vierge était là, parce que il n'y avait pas une seule voiture. Et 2 minutes après, toutes les voitures passaient. Heureusement qu'on était arrêtés, qu'elles voyaient. On se demandait qu'on était fous, qu'on était dans le mauvais côté. Des tas de choses comme ça. Il y a une pauvreté intelligente. On n'a pas le droit d'être pauvre, bête. Vous avez une pauvreté intelligente. Et on doit être pauvre. Et on doit, dans la mesure où on a des charges, on doit faire attention à ça. Pour l'électricité, pour tout, pour la nourriture. Le souci d'être des pauvres et d'avoir une nourriture comme les pauvres ont. Mais une nourriture qui permette aux jeunes de manger. Enfin, quand on vieillit, on a ce privilège de manger moins. Mais quand on est jeune, on doit manger. Alors c'est très bien de jeûner pendant le carême. C'est bien faire un effort, mais dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Il ne s'agit pas de jeûner et au bout de 3 semaines du carême, être alité. Ou bien au bout de 4 semaines. Ou bien la dernière semaine. Non. Et il ne s'agit pas non plus, par une fausse prudence, faut à tout prix que je vive, faut à tout prix que je mange. Alors j'en emmagasine. Et on ne sait pas ce qu'on aura à midi, alors on emmagasine. Et non, c'est pas pauvre. C'est pas pauvre. L'esprit de pauvreté doit marquer toute notre vie. C'est très important de comprendre l'incarnation de l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté fait qu'il y a une manière particulière de vivre. Il faut y penser. Alors, c'est sûr, ceux qui ont connu ça dans leur jeunesse, c'est plus facile. Ceux qui ne l'ont pas connu et qui ont eu largement tout ce qu'il fallait, c'est plus difficile. Et là, le chapitre, les proclamations doivent nous aider. Parce que c'est des choses qui se voient. L'esprit de pauvreté, ça, Dieu seul peut le sonder. C'est un abîme. Et l'esprit de pauvreté relève du don de crainte. Le don de l'Esprit Saint, le don de crainte. Et le don de crainte fait que nous avons une crainte aimante. Pas une crainte mondaine, mais une crainte aimante. Donc ce n'est pas une peur. La peur est une passion. Et le don de crainte engendre en nous un esprit de pauvreté. Et cet esprit de pauvreté qui fait que nous désirons être des témoins de la pauvreté du Christ. Et le Christ est apparu pauvre, mais pas triste, joyeux. C'est dit dans l'Écriture. Et pas excessif. Le Christ n'est pas apparu dans une pauvreté excessive. Ce qui compare la pauvreté de Jean-Baptiste, qui était assez forte. Jean-Baptiste, pauvreté qui termine l'Ancien Testament. Et on compare Jésus qui accepte d'aller aux noces de Cana et Jean-Baptiste qui ne l'accepte pas. Jean-Baptiste qui jeûne avec une très grande intensité et Jésus et ses disciples qui jeûnent modérément mais qui savent jeûner. Vous voyez, il faut apprendre ça, ça s'apprend. Alors là encore, si vous avez des questions, il faut les poser. Parce que c'est fait pour ça, ce petit cours que nous avons ensemble. C'est un cours très particulier. Mais exprès, on a voulu être uniquement ensemble pour qu'on puisse parler de tous les sujets concrètement à la manière dont on essaie de les vivre dans Saint Jean. Et quand on est scandalisé par tel ou tel qui semble ne pas du tout vivre de l'esprit de pauvreté. Vous voyez, le téléphone. Non, les pauvres, les très pauvres n'ont pas le téléphone. Ça, c'est sûr. Le fax. Les très pauvres ne l'ont pas. Non. Pour nous, nous l'avons. À cause de notre vie apostolique. Ça, c'est sûr. À cause de notre vie apostolique. Et les moniales l'ont, parce que là aussi, ça permet un accueil, ça permet une relation plus normale au point de vue humain. Mais il faut se dire qu'on n'a aucun droit. Or, dès qu'il y a une panne, affolant, il n'y a plus le téléphone. Qu'est-ce qui va arriver? Mais vous êtes pauvre ou pas? Et c'est très curieux. C'est dès qu'il y a un manque qu'on s'aperçoit tout de suite si l'esprit de pauvreté existe ou pas. Qu'on ait un petit mouvement de mauvaise humeur, primo, primi, pas dangereux. Ça prouve qu'on n'est pas encore un saint. Mais immédiatement, le second mouvement, Seigneur, c'est très bien. Exercice de la pauvreté. C'est la même chose pour la nourriture. Premier mouvement. On a un petit mouvement du « Oh, encore une fois !» On nous sert toujours la même chose. Pas agréable. D'abord, on ne le manifeste pas. C'est pas la peine de tenter son voisin. Les stoïques. Par vertu. Par esprit de pauvreté. Et on l'accepte. On ne fait pas de remarques. Sauf celui qui est responsable. Les autres pas. Aucune remarque. C'est un manque d'esprit de pauvreté. C'est important. Ça se situe tout le temps. Ça se voit tout le temps, l'esprit de pauvreté. C'est même fondamental dans notre vie. Et c'est très important pour notre vie apostolique. Parce que vous savez bien, c'était la grande découverte de saint Dominique. Alors nous, on devrait se poser la question, quelle est la pauvreté qui serait propre à notre temps pour essayer d'être des témoins d'évangile. C'est pas si commode que ça. Et là, on doit demander au Saint-Esprit. La pauvreté de Saint-Dominique était relativement facile, parce qu'elle était très visible. Tandis que la pauvreté dans notre temps, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tout s'est intériorisé. Alors, sans doute, c'est de ne pas trop juger trop rapidement, comme vous êtes invité dans une paroisse, tout de suite vous jugez. Vous êtes passage dans un petit prieuré qui n'a pas tout à fait les mêmes mœurs que tel ou tel autre. Tout de suite on juge et on fait de la peine. C'est un manque de pauvreté, ça. Parce que c'est une richesse de juger. Et ça blesse. Alors il y a un manque de charité fraternelle, justement parce qu'il y a un manque de pauvreté. Quand on a un esprit de pauvreté, on est bien plus accueillant vis-à-vis de ses frères. On ne les juge pas tout de suite à leur manière d'être. Et puis troisième vœu, le vœu, l'esprit de virginité. Alors là, on va le voir un peu plus à fond. C'est l'esprit le plus intérieur, le plus profond. C'est bien cet esprit de virginité qui est quelque chose de plus radical. Bienheureux les cœurs purs. C'est ça, c'est bienheureux les cœurs purs, c'est la béatitude des cœurs purs. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne veut pas se ternir en étant en relation avec quelque chose qui n'est pas directement ce que veut Jésus, le bon plaisir du Père, sur nous ou sur ceux qui sont auprès de nous. Esprit de virginité, c'est avoir cette soif d'aimer Jésus comme il demande d'être aimé. Donc de l'aimer au-dessus de tout et d'aimer les autres relativement à lui. Esprit de virginité, quelque chose de capital pour nous. Parce qu'il maintient en nous une soif que l'amour du Christ prenne tout en nous. Que l'amour du Christ règne. Qu'il n'y ait plus défendu, qu'il n'y ait plus des rapines, comme dit l'Écriture. Les rapines, vous savez, c'était les frères du vieux prêtre Élie qui commettaient des rapines. Des rapines à l'égard des victimes offertes à Dieu. La graisse des victimes, qui les tentait particulièrement. Alors, pendant la nuit, il venait prendre tout ce qui était offert pour Dieu, et puis le manger. Hein, on voit ça. Des rapines. Ce qui était contraire à l'esprit de virginité, puisque c'est chercher un bien-être sensible autre que ce qui était nécessaire pour vivre. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'était contraire à l'esprit de pauvreté, contraire à l'esprit d'obéissance. Alors vous voyez bien toutes les applications. Alors, l'esprit de virginité et le vœu de chasteté. l'esprit de virginité. C'est très important. Comprendre jusqu'où doit aller cet esprit de virginité. Qui dit esprit, dit amour, dit souffle de l'Esprit Saint et dit un abîme. Il n'y a pas de limite du côté de l'esprit. C'est du côté de la matière dont se réalise le vœu. Il peut y avoir des limites, des matières. Donc, il faut d'abord comprendre que l'esprit de virginité, c'est de vouloir n'aimer que le cœur du Christ. Et de l'aimer jalousement, ça correspond à la jalousie de Dieu sur nous. Dieu est un Dieu jaloux, qui veut tout notre cœur, et qui veut que nous soyons entièrement donnés. Et donc, vivre de l'esprit de virginité, c'est demander à l'Esprit Saint de vivre en plénitude de cette jalousie d'amour du cœur du Christ sur nous. Et c'est très important de voir que c'est le reflet en nous